Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Philippe Le Caplain.
Le décryptage de la vie politique en France est maintenant sur RFI et c'est avec vous, Dorian Dreuil. Bonsoir.
Bonsoir Philippe
Le Caplain. Politologue pour le compte de la Fondation Jean Jaurès, enseignant à l'Université de Paris-Nanterre.
La fameuse 49e minute que les gens attendaient ce soir. Quelques timides sifflets.
C'était hier soir au Stade de France à la 3e seconde de la 49e minute de la finale de la Coupe de France de football. Des sifflets pour dénoncer le recours à l'article 49.3 pour faire passer la loi sur la réforme des retraites. Les syndicats avaient distribué des sifflets, des cartons rouges également aux spectateurs avant qu'ils n'entrent dans l'enceinte sportive. Et cela avait donné lieu à une polémique, laquelle continue d'ailleurs aujourd'hui avec cette prise de parole de Jeanlin Lacapelle, le porte-parole du Rassemblement National sur France Info.
Le chef de l'État avait quand même aménager les choses de manière à ce qu'il n'ait pas une volée de sifflets comme il le craignait. Ça fait 85 ans que la tradition veut que le président de la République aille saluer les équipes sur la pelouse. Il ne l'a pas fait. Il a salué dans les vestiaires les équipes. Donc courageux, mais pas téméraire. Ce qui n'empêche que c'est demain que l'opposition va continuer dans les rues en France et ce jour de 1er mai sera, je pense, un symbole de force.
Et maintenant, Sophie Binet, la nouvelle chef de la CGT sur France 3.
Je suis très choquée par la grave dérive sécuritaire à laquelle on a assisté hier soir, puisque le fait notamment de tenter d'interdire la distribution de tracts, heureusement qu'Emmanuel Macron a été rappelé à l'ordre par le tribunal qui l'a sanctionné, ensuite le fait d'interdire aux supporters de rentrer avec des cartons rouges alors qu'il n'y avait aucun danger pour la sécurité, et malgré tout cela, les sifflements ont été très importants, et Emmanuel Macron a été obligé de se cacher d'un bout à l'autre du match pour ne pas accentuer les sifflements. Ce qu'on constate, c'est quand même une grave atteinte aux libertés publiques. Et ça ne peut réjouir personne. Et je suis d'autant plus inquiète quand je constate qu'il y a des drones qui sont annoncés pour la sécurisation des cortèges du 1er mai. On est sur une pente dangereuse.
Dorian Dreuil, il n'y a pas eu de bronca donc, dans les tribunes du stade contre le président de la République, mais le sentiment que le chef de l'État pouvait tout de même avoir peur de la rue.
Oui, tout à fait. On pourrait dire que syndicats, mobilisation sociale versus président de la République, un partout, égalité. Donc il y a un match nul, c'est-à-dire que le président de la République a quand même dû adapter son protocole et sa présence à ce moment de tension sociale au Stade de France. Donc il n'y a pas eu de retransmission sur les écrans géants. Et donc effectivement, on ne l'a pas vu, il n'a pas été hué. Et de l'autre côté, du côté des syndicats, ça n'a pas été la bronca annoncée, espérée. Pour autant, c'est peut-être pas forcément un flop d'ailleurs, dans la mesure où toute la journée sur les plateaux de télévision et dans les médias, ce fameux carton rouge et ses sifflets, ils ont été montrés toute la journée. Donc ça permet aux syndicats en fait de montrer que la séquence n'est pas finie pour eux. Et ça, c'est intéressant parce que le politique en général et le pouvoir aujourd'hui en particulier aime raisonner en termes de séquence. Et donc de dire, on est arrivé au bout du cheminement institutionnel de la réforme, la séquence se termine, on passe à autre chose. Et là, les syndicats ont réussi à montrer que, ils saisiraient toutes les occasions médiatiques et populaires pour ramener ce débat sur la contestation de la réforme des retraites.
Et cette séquence du Stade de France intervient après les cassolades, comme on dit. Écoutons maintenant justement des gens qui tapent sur des casseroles dès qu'un membre de l'exécutif est en déplacement officiel.
Dans une démocratie, il n'y a pas que des élections tous les 5 ans, il n'y a pas que des échéances électorales, il y a le peuple qui peut donner son opinion à tout moment et qu'il faut l'écouter.
Madame, je suis prête à vous écouter, mais je ne peux pas vous entendre.
C'est un peu un symbole aussi du peuple de taper avec ce qu'on a et de faire du bruit avec ce qu'on a.
Voici ce qu'en pense maintenant Olivier Grégoire. Olivier Grégoire est ministre du Commerce et de l'Artisanat, c'était sur France Inter tout à l'heure.
Il faut aussi absolument que nous gardions notre sang-froid. Les casserolades ou les casseroles, le fait d'être chahuté, le fait d'être lourdement critiqué, c'est quand même le cœur de la démocratie. C'est légitime, avec une réforme dont on sait pertinemment qu'elle est impopulaire, qu'il y ait des mécontents et des mécontentements. Moi, je préfère des casseroles, voire des concerts de cuisine, que d'autres ustensiles. Des pierres très lourdes, voire des instruments contendants, des hachettes, des couteaux. Ce qui est surtout embêtant, c'est que ça nous empêche d'échanger. En réalité, on ne peut pas se parler parce qu'on ne s'entend pas quand il y a des casseroles.
Dorian Dreuil, finalement, c'est là toute la question de savoir si la rue peut gouverner. Une manifestation est-elle aussi légitime qu'une élection ?
Effectivement, la démocratie, ne vit pas que par les urnes. C'est-à-dire que la démocratie, elle vit par l'expression de différentes formes de légitimité, que sont la légitimité de la démocratie élective, de l'exécutif, des élus, mais aussi la démocratie sociale, des syndicats, des corps intermédiaires, et aussi la démocratie citoyenne, de la participation des citoyennes et des citoyens à la vie de la cité. Donc finalement, la démocratie, on ne peut pas la réduire uniquement à une litanie d'articles et de procédures parlementaires. Elle vit par-delà les murs du Palais Bourbon.
Et la démocratie, c'est pas tous les 5 ans.
Et la démocratie, c'est pas tous les 5 ans. Et effectivement, ce qu'on observe ces dernières semaines et ce qu'on a observé ces 3 derniers mois, c'est que toutes ces légitimités étaient entrechoquées et qu'il y avait cette espèce de choc des légitimités démocratiques. Donc l'enjeu va être aussi de reconstruire la manière dont dialoguent et coexistent ces différentes légitimités. Donc on peut pas dire que la rue doit gouverner, mais on peut pas non plus dire que un président de la République et son gouvernement et sa majorité doivent rester sourds à l'expression de mécontentement, l'expression de colère, de ressenti, de peur, d'envie, et aussi d'envie de participer différemment à la vie de la cité aujourd'hui.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI. Nous sommes le 30 avril et donc demain, ce sera le 1er mai. Les syndicats défileront unis dans la rue. Cela fait 15 ans que les syndicats ne se sont pas rassemblés sous la même bannière pour la Journée internationale des travailleurs. Et puis, ce sera la 13e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. D'où ce que disait tout à l'heure Laurent Berger, patron de la CFDT sur RTL.
Le 1er mai va être un des plus gros 1er mai sur la question sociale de ces 30 ou 40 dernières années. C'est ça qu'il faut faire et ensuite déterminer le 2 mai au matin ce qu'on va continuer à faire. Mais je le dis très clairement, la CFDT ne sera ni dans l'activisme, ni dans les actions coup de poing, ni dans le fait d'emmener les travailleurs dans le mur en leur faisant croire qu'on pourrait faire en sorte que le président de la République qui a promulgué cette loi la retire. Pour autant, je crois qu'on a intérêt à continuer de travailler en intersyndical sur la question du travail. Il y a des rendez-vous le 8 juin notamment à l'Assemblée nationale avec le groupe Lyot qui veut déposer une proposition de loi pour abroger cette loi. Donc vous voyez, il y a encore des choses à faire.
Le nom d'Emmanuel Macron sera peut-être conspué demain dans les quelques 300 cortèges organisés partout en France. En tout cas, il sera dans toutes les têtes, à en croire Sophie Binet de la CGT.
Il y sera parce que son acharnement et son obstination a ajouté à la crise sociale une crise politique. C'est sa responsabilité malheureusement et on voit que cette réforme des retraites, elle est là seulement par la volonté d'un seul homme. C'est ça qui est extrêmement choquant, c'est qu'il n'y a aucune nécessité économique à réformer les retraites. C'est une réforme violente qui même conduit à ce que la note de la France soit abaissée sur les marchés financiers. S'il n'y a pas de retrait de cette réforme, il y aura une défiance profonde dans le pays. Le gouvernement ne pourra plus réformer. Et c'est d'ailleurs ce que dit l'agence Fitch qui vient de dégrader la note de la France pour cette raison-là. Nous notons avec une grande satisfaction que le 8 juin prochain, les députés ont déposé une proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites. Nous appelons solennellement l'ensemble des députés à voter cette loi d'abrogation qui pourrait permettre une sortie par le haut.
Et justement, un de ces députés, c'est le LFI François Ruffin. Il espère que les défilés feront le plein contre la politique du gouvernement et du président. Il l'a dit sur BFM.
Nous faisons entrer 2023 dans l'histoire sociale de notre pays comme un grand moment de rupture. Il y a eu 2005, il y a eu l'hiver en jaune 2018 et 2023 marque un temps de rupture. Ça va rester dans les têtes.
Même si vous avez perdu face au gouvernement.
Alors, nous n'avons pas perdu, vous en parlez au passé, la bataille est en cours.
Dorian Dreuil de la Fondation Jean Jaurès, ce 1er mai, baroud d'honneur ou rebond de la lutte contre les retraites?
Un peu des deux, sûrement. Un peu des deux dans la mesure où l'enjeu pour l'intersyndicale demain, il est de pouvoir avoir un 1er mai historique. Il le sera déjà dans la mesure où ça sera un 1er mai unitaire, ce qui n'était pas arrivé depuis 15 ans, vous l'avez rappelé. Et le deuxième enjeu, c'est la mobilisation. Plus la mobilisation sera forte et puissante, et plus ça donnera de l'élan et du poids aux syndicats dans la perspective de négociations futures ou prochaines ou au moment où le dialogue social va reprendre, car il ne faut pas imaginer que le dialogue social ne reprendra pas. Les grands vainqueurs de ces 3 derniers mois, ce sont les syndicats qui se réaffirment comme des outils de mobilisation collective, comme des outils qui permettent de canaliser et de faire remonter l'expression d'un ressentiment qui existe dans la société. Et donc, ça rappelait à celles et ceux qui pensaient pouvoir se passer des corps intermédiaires, qu'on ne peut pas gouverner tout seul en réalité, et qu'il y a cette nécessité d'avoir des partenaires sociaux pour dialoguer et négocier, mais aussi pour sentir l'humeur et l'émotion du pays.
Alors on vient d'entendre Laurent Berger qui a également annoncé que la CDT ira discuter avec la Première Ministre si elle est invitée à le faire. La secrétaire générale de la CGT s'est montrée beaucoup plus prudente sur la réponse à apporter. Est-ce la fin d'une unité syndicale qui a été sans faille depuis des mois ?
Elle risque d'évoluer au gré de l'évolution des mobilisations sociales. C'est-à-dire que l'intersyndicale sera sans doute moins amenée à appeler aux grandes manifestations, aux grands rendez-vous, aux grands appels à la grève, mais il y avoir une mutation de cette mobilisation où chacun va en quelque sorte reprendre un peu son ADN et la CGT va garder son ADN de l'ordre du happening, de l'activisme, de la mobilisation spontanée et la CFDT, dans son ADN, elle reprendra langue et dialogue avec le gouvernement pour négocier dans les chantiers qui vont venir.
Le 1er mai, c'est aussi une date importante politiquement pour le RN, qui a toujours honoré sa muse, Jeanne d'Arc, à Paris, près de la place de la Concorde. Mais demain, le parti donne rendez-vous au Havre. Jeanlin Lacapelle.
Nous cherchons une ville symbolique de la désindustrialisation d'une population qui aujourd'hui a du mal à boucler les fins de mois, qui aujourd'hui est victime de cette crise du pouvoir d'achat. Donc nous avons décidé d'aller au Havre pour faire évoluer aussi notre format du 1er mai. Et nous l'avons organisé, baptisé la fête de la nation avec un grand déjeuner où 1500 personnes seront présentes. Et je crois que ce sera demain un très beau succès populaire.
Le Havre, c'est la ville de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. C'est aussi une cité ouvrière avec des pêcheurs, des dockers. Cela n'est pas sans intérêt pour expliquer le choix du RN pour lequel de plus en plus d'ouvriers votent.
Oui, sûrement, et ça traduit un peu le paradoxe d'un Rassemblement national qui se veut être le parti des travailleurs, des ouvriers, mais qui n'est pas accepté dans les cortèges, dans les grandes mobilisations des travailleuses et des travailleurs lors du 1er mai. Donc ils sont contraints d'aller faire leur fête de leur côté avec 1500 personnes. Il y a cet enjeu pour eux, vous l'avez dit, de montrer qu'ils sont en connexion avec les classes populaires et aussi d'une certaine manière de pré-commencer de manière assez rigolote le match 2027 avec celui qui serait le potentiel candidat du bloc central, Édouard Philippe, et même voir commencer le match un peu avant, parce que Jordan Bardella mettait au défi Édouard Philippe sur la mairie, la prise de la mairie par le Rassemblement national du Havre en 2026.
Et puis il y a la réforme des retraites, bien sûr, qui agite le climat social. Il y a aussi le problème de l'inflation, c'est-à-dire de la hausse des prix. Les syndicats entendent bien en faire un nouveau combat. Voilà ce que la ministre du Commerce annonçait tout à l'heure, Olivia Grégoire, sur Radio France.
Certains distributeurs ont engagé déjà des renégociations commerciales. Ces renégociations, leurs fruits vont porter à l'été. Et je peux vous affirmer qu'à la rentrée, nous aurons une baisse visible des prix dans les rayons sur l'inflation alimentaire. Donc on va revenir à des prix qui doivent redevenir ce qu'ils étaient pré-inflation.
Le maintien du pouvoir d'achat et du meilleur salaire, ce sera la prochaine bataille sociale dans les semaines, dans les mois qui viennent.
Oui, tout à fait. Le grand défi pour l'exécutif, c'est d'arriver à montrer l'impact concret des mesures qu'ils annoncent et de raccourcir le temps entre une mesure, un décret, une loi et l'impact dans la vie des gens au quotidien.
Merci pour vos commentaires et analyses, Dorian Dreuil de la Fondation Jean Jaurès, politologue à l'Université Paris-Nanterre.